Ben, je souhaiterais aujourd'hui pouvoir lire avec vous le psaume 34 et nous lirons les 10 premiers versets de ce psaume 34. Alors eh bien, nous allons une première fois lire les 10 versets à la suite et ensuite j'aimerais m'arrêter eh bien, sur chacun de ces versets un par un eh bien, pour pouvoir un petit peu découvrir ce que ce psaume 34 a à nous dire, à nous chrétiens de cette époque. Alors avant de commencer la lecture, eh bien, ce psaume 34 eh bien, trouve son histoire dans le livre d'un Samuel au chapitre 21. C'est l'histoire où David est chassé par le roi Abimélec et il en veut à sa vie. Et alors, eh bien, pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir s'en sortir, eh bien, là, David va simuler la folie. Il va écrire des choses, des espèces de symboles sur les battants de ses portes. Elle va aussi simuler la folie en laissant couler eh bien, la salive le long de sa barbe pour se faire passer pour un fou. Et suite à ça, eh bien, le roi Abimélec ne voudra pas eh bien, s'éterniser sur le fait de chasser un fou et il laissera David s'enfuir. Et David eh bien, trouvera son refuge dans la caverne d'Adoulam où la suite de l'histoire se prolongera. Alors, je vous inviterai à relire cette histoire si vous le voulez chez vous, mais ce n'est pas le but principal ce matin, mais c'est important de se rendre compte de cette histoire pour voir un petit peu la suite de ces paroles qui ont été écrites, c'est très important. Alors on va faire une première fois la lecture des 10 premiers versets, donc à la suite. Alors psaume de David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chassé par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors on va revenir au verset 2, si vous voulez bien, tout de suite. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce psaume 34, eh bien, ça concerne David il y a énormément d'années. Mais on peut trouver un parallèle avec notre vie à nous. Dans ce psaume, eh bien, on voit que Dieu est intervenu dans la vie de David en lui permettant eh bien, d'échapper à son poursuivant, à celui qui en voulait à sa vie. Et c'est certainement pas l'histoire de David la plus époustouflante de sa part, c'est certainement pas la plus grande victoire que David ait remportée, certainement pas non plus le meilleur souvenir qu'il a eu, je pense, de toute sa vie avec Dieu, mais Dieu est intervenu miraculeusement dans sa vie. Eh bien, à ce moment-là. Et il faut reconnaître aussi, je pense que mon micro ne fonctionne plus tout d'un coup, tout va bien alors, voilà. Je pense que nous aussi, en tant que chrétiens, notre vie d'avant, avant de connaître Dieu, eh bien, on ne pouvait pas en être particulièrement fier, on ne pouvait pas en être particulièrement eh bien, satisfait ou content. On n'a rien fait pour obtenir eh bien, la délivrance de la part de Dieu. Nous étions un peu comme David, perdus, chassés par quelqu'un, par quelque chose qui voulait eh bien, notre mort, Satan, qui souhaitait que l'on reste auprès de lui. Mais l'Éternel, mais Dieu, en Jésus-Christ, eh bien, est intervenu pour nous comme pour David. Et il nous a délivrés eh bien, de l'emprise de Satan en nous faisant passer eh bien, de la mort à la vie spirituelle en Jésus. Or, ce verset 2, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche », est une invitation à reconnaître la bonté de Dieu dans chacune des parenthèses de notre vie. Il faut savoir que bénir l'Éternel, ce n'est pas facile à faire tous les jours. Hein. Il y a des jours où ce n'est pas facile de bénir l'Éternel, surtout quand on passe par des temps de souffrance, par des moments pénibles, par parfois des disputes, parfois des pertes d'emploi, des choses qui caractérisent la vie de l'être humain. Bien, ici, David nous dit « Je vais bénir l'Éternel en tout temps ». Pour bénir l'Éternel, il faut se faire violence. Il faut chaque jour se recentrer sur Dieu. Pourquoi aujourd'hui je dirais merci à Dieu ? Pour quelle raison ? Bien, je pense que la réponse se trouve dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le salut par grâce que l'on a obtenu de la part de Jésus-Christ, eh bien, ça devrait être suffisant pour alimenter cette louange au quotidien. Si chaque jour, le matin, on se réveille, on se tourne vers Dieu et on regarde un peu d'où on était et d'où on est grâce à Jésus-Christ, eh bien, je pense que c'est suffisant pour alimenter la louange du quotidien. On peut passer au verset 2, si tu veux bien, Olivier, merci. Au verset 3, pardon, ça tu as raison en plus. C'est bien de suivre comme ça, c'est mieux que moi, tu vois. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Certaines versions aussi ont que mon âme se glorifie en l'Éternel, mais c'est pareil. Le chrétien ne peut pas se réjouir ni s'enfler d'orgueil quant à ses réussites personnelles. Nous ne pouvons pas nous enfler d'orgueil pour notre réussite personnelle, pour les choses que nous faisons bien, voire mieux que les autres, pour les dons que Dieu nous a donnés. Parce que je pense que comprendre l'Évangile est bien de la grâce que nous lisons quotidiennement, et bien c'est avant tout comprendre que cette quantité de péchés et bien qui nous privait de la présence de Dieu, ces péchés qui ont créé bien un gouffre entre Dieu et les hommes, ces péchés, bien, j'en suis responsable. C'est ma faute. Je ne peux pas accuser Dieu de les avoir commis à ma place et je ne peux pas non plus accuser les autres de les avoir commis non plus à ma place. On pourrait dire que tous ces péchés-là nous sont imputables, à nous, personnellement. Donc, on n'a rien fait pour obtenir le salut de nos péchés. On n'a rien fait, on n'a rien mis en œuvre. Si ce n'est Jésus-Christ. Dieu a envoyé son propre Fils, c'est sa décision. C'est Jésus qui est descendu du ciel vers la terre. C'est lui qui est venu pardonner nos péchés. C'est lui qui est venu mourir, souffrir et ressusciter. On n'a rien fait pour ça. Voilà pourquoi eh bien, on ne peut pas se glorifier en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu. Le chrétien se glorifie en Dieu, uniquement. On peut passer au verset suivant. « Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. » C'est ici une invitation du chrétien. Eh bien, à ne pas rester vivre son salut dans son coin, à ne pas garder son salut caché, à l'abri des regards, à l'abri des paroles. Il faut le mettre en avant, son salut. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, si ce n'est des choses merveilleuses et grandes, en nous libérant du péché, en nous pardonnant, en nous offrant une place dans son paradis, en ayant la vie éternelle, nous la possédons déjà actuellement. C'est une invitation pour que chaque chrétien puisse se réunir entre nous, comme on le fait ce matin, chacun aussi chez vous, pardon, pour célébrer son nom. Le chrétien doit être quelqu'un qui va vers les autres, qui propage son salut, qui le met en avant, qui en parle. On peut continuer. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. C'est un peu particulier parce que quand on s'intéresse de loin aux choses de Dieu, eh bien, il faut savoir que Dieu mettant chacun de nous au départ, c'est cet instinct miraculeux, cet instinct divin de rechercher d'abord l'Éternel. C'est Dieu qui nous cherche d'abord. Alors après, on s'en rend compte lorsqu'on est converti, mais au début, on ne s'en rend pas compte. On pense que c'est nous qui avons fait le premier pas vers l'Éternel, mais ce n'est pas vrai. Alors pour une personne ou une autre, ce n'est pas pareil. Hein, l'Éternel nous a cherché d'abord, en passant peut-être par un ami qui était chrétien, qu'on ne savait pas, qui nous a expliqué un petit peu les choses de Dieu. Peut-être aussi qu'on a écouté des chants. Hein, parce qu'on a été invité dans une fête de Noël ou une fête éventuelle, peut-être qu'un quelqu'un a témoigné aussi pour nous. Alors on s'est posé les grandes questions existentielles de la vie. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? À quoi je sers? Quel est l'objectif? Eh bien tout ça, c'est Dieu qui automatiquement met cet instinct divin à l'intérieur de nous d'avoir ce désir de le rechercher. Et bien sûr, après, il nous faut accepter son œuvre. Ça, c'est notre travail à nous, d'accepter ou pas. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quelles sont ces frayeurs dont ce psaume 34 eh bien, nous parle? Eh bien, pour ma part, c'est certainement, je pense que peut-être pour vous aussi, la peur de l'inconnu. Le monde est inconnu. Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On nous a délivré aussi de cette frayeur qui est la mort. La mort est la plus grande des frayeurs pour l'être humain. Nous sommes délivrés de la mort parce que nous savons que lorsque nous mourons, nous ne mourrons pas réellement, nous allons automatiquement dans la présence de Dieu parce que nous sommes justifiés, parce que nous sommes pardonnés. Cette frayeur, ça peut être aussi, eh bien, d'être débarrassé une fois pour toutes de cette crainte de monter vers l'Éternel, de monter vers Dieu en jugement. Parce que nous ne montons plus en tant que chrétiens vers l'Éternel en jugement, mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Donc toutes ces frayeurs, eh bien, nous avons été délivrés par le sang de Jésus. On peut continuer. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Je ne sais pas si on peut se rappeler un petit peu comment étaient nos visages eh bien, avant d'être convertis. Peut-être avions-nous un visage eh bien, couvert de honte, comme ce verset le dit, ou alors hautain, un visage orgueilleux, un visage rempli de haine, un visage aussi peut-être écrasé par la douleur, d'être condamné par son péché, de ne pas pouvoir être capable de faire le bien par soi-même. Eh bien, ces regards, c'est terminé. Parce que maintenant, lorsqu'on tourne les regards vers l'Éternel, vers ce qu'il a fait pour nous, vers ce pardon qu'il nous a accordé, eh bien, on ne peut être que rayonnant de joie, parce que nous allons à la rencontre de Dieu, pardonné, justifié. Dieu est là, est présent, il est devant nous, derrière nous, à gauche, à droite de nous, il est autour de nous. Donc nos visages ne sont plus couverts de honte, ne sont plus couverts de honte. Et il y a aussi de l'espoir pour les personnes qui vivent encore actuellement avec un visage, eh bien, couvert de honte ou d'orgueil ou de haine et qui se rendent bien compte qu'ils n'arrivent pas, eh bien, à se libérer d'eux-mêmes, c'est que cet évangile de grâce, il n'est pas disponible que pour le chrétien, il l'est pour chacun, pour quiconque veut se tourner, eh bien, vers l'Éternel. Il y a de l'espoir. On peut continuer. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Eh bien, ces malheureux, c'était nous également. Hein? Comment étions-nous lorsque nous sommes arrivés vers Dieu? Nous étions malheureux. Nous étions dans l'humiliation, dans l'incapacité totale et permanente de se sauver par soi-même. Impossible de rejoindre Dieu en passant par autre chose que par Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Donc nous étions malheureux de notre péché, malheureux de cette existence qui ne menait à rien, si ce n'est à la détresse, à la tristesse. Et alors, quand un malheureux crie, nous avons crié à l'Éternel et il nous a entendus, il nous a écoutés. Et comme il nous a écoutés, il nous a sauvés de toutes ces détresses. Alors, quelles sont eh bien, ces détresses ici pour lesquelles Dieu nous a délivrés? Eh bien, ce sont nos péchés, encore une fois, nos propres péchés. Ces péchés que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tissés de nos mains, nous avons tissés dans nos cœurs, dans nos esprits. C'est de nos propres péchés que l'Éternel nous délivre en nous sauvant. Il nous a délivrés de nos péchés qu'on a tissés nous-mêmes. On peut continuer. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. J'ai bien aimé ce mot camp, camper. Ça rappelle un petit peu les camps scouts, quand ils font le camp, il y a le feu de camp, il y a l'endroit où on se lave, l'endroit où on se restaure, l'endroit où on chante les chants, où on vit dans un camp. Eh bien, l'ange de l'Éternel, les commentateurs s'accordent pour dire que c'est Jésus-Christ lui-même. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire que dans notre vie quotidienne, dans la maison où on habite, on pourrait dire le camp où on habite, eh bien, Jésus est dans ce camp. Jésus est là quand on mange, Jésus est là quand on dort, quand on se réveille, dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, dans chaque moment que nous passons dans la vie quotidienne, eh bien, Jésus-Christ est là et il campe autour de nous. Il ne nous laisse jamais tomber. Et il nous arrache au danger. Eh bien, je pense que l'Éternel, en Jésus-Christ, nous a délivrés de beaucoup de dangers. Alors, d'abord, il y a ceux qu'on ne savait pas, hein? Combien de fois l'Éternel nous a empêchés peut-être de commettre telle chose, d'avoir telle pensée, de nous diriger vers tel endroit plutôt qu'un autre, et aussi tous les dangers dans lesquels nous étions mis nous-mêmes aussi. L'Éternel nous arrache des dangers que ce monde eh bien, a créés en la personne de Satan. Alors on peut continuer. Or le verset 9, c'est un magnifique verset. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Alors c'est pour moi le verset 9, c'est vraiment le verset clé qu'on pourrait, c'est ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait partager avec les personnes que nous rencontrons, eh bien, lorsqu'ils ne connaissent pas l'Évangile. Moi ça m'a parlé tout de suite parce qu'à l'école, en tant que prof de cuisine, eh bien, parfois je crée des recettes avec les élèves et on passe par différentes saveurs, par différentes textures et parfois ils ont des doutes. Hein, quand ah, ça va être bon monsieur, vous pensez que ça va le faire comme ça et tout. Alors je leur dis, venez, approchez, sentez. Or, je fais comme ça avec ma main pour que l'arôme puisse passer dans leur narine, malgré le masque, on le sent très bien. Hein. Et alors, après, ils viennent goûter. Et une fois qu'ils ont senti, qu'ils ont goûté, « Ah, monsieur, vous avez raison, c'est pas mal, c'est bon, comme ça, on ne se rendait pas compte. » Je pense qu'il faut amener les personnes que nous rencontrons à venir sentir d'elles-mêmes, à venir goûter d'elles-mêmes combien ce que l'Éternel a fait pour nous est bon, est bon. Qu'est-ce que Dieu a changé dans notre vie? Plein de choses. Nous sommes passés de telles personnes et maintenant notre caractère est différent. Dieu nous a changés. Je pense qu'il est important de partager, que les personnes que nous rencontrons puissent goûter et sentir d'elles-mêmes combien l'Éternel est bon. L'homme qui cherche refuge en lui, eh bien, est un homme heureux. Certaines versions diront heureux aussi, comme celle-ci. Heureux l'homme, c'est-à-dire que c'est le mode d'emploi pour être heureux. Nous sommes heureux ce matin si nous cherchons refuge, si nous nous appuyons sur Dieu, si nous cherchons les solutions à nos vies dans sa parole, dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous enseigne. Dieu n'est pas quelqu'un pour trahir, comme nous. Dieu n'est pas quelqu'un qui revient sur sa parole comme nous. Si on cherche refuge en lui, on ne sera jamais trahi, jamais déçu par lui. On peut passer au verset 10. Alors verset 10, c'est un appel eh bien, aux chrétiens en particulier, à dire à nous. D'abord, c'est craignez l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est d'abord le respecter. hein, avoir une crainte, une sainte crainte de lui, de sa grandeur, de tout ce qu'il fait. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. C'est nous, les saints de Dieu. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est un appel aussi à marcher par la foi, un appel à voir par la foi plutôt que par la vue. Et pour quoi faire? Eh bien, pour pouvoir goûter, eh bien, à tout ce qu'il a en réserve pour nous, à tout ce qu'il a en réserve. Dieu a en réserve pour ceux qui acceptent de marcher par la foi, de vivre par la foi, eh bien, une quantité de bonté, une quantité de bien, une quantité de choses saintes qu'il veut nous faire goûter. Et ce verset 10, là, m'a fait penser à Jésus quand il parle dans Matthieu. Je veux bien, Olivier, mettre le verset de Matthieu, si tu veux bien. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses, certaines versions diront aussi, vous seront données en plus. Ça veut dire que nous acceptons de marcher par la foi, de voir par la foi, de faire confiance à Dieu, de chercher d'abord son royaume et sa justice, donc la sienne, pas la nôtre, pas celle du monde, eh bien, tout le reste nous sera donné en plus. Les réserves de Dieu, les bontés de Dieu ne sont certainement pas épuisées en 2021. Elles sont toujours bien présentes, conséquentes. Elles sont là à notre disposition pour le chrétien qui cherche eh bien, à marcher, à voir par la foi plutôt que par la vue. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce psaume 34. Je pense qu'il avait un beau parallèle à faire avec notre relation personnelle avec Dieu. Seigneur, merci parce que comme David, eh bien, tu m'as sorti du pétrin dans lequel j'étais. Comme David, eh bien, tu m'as sorti de là, tu m'as sauvé. Tu as permis que je puisse m'en sortir. Et tu ne fais pas que, Seigneur, que me garder. Tu m'as sauvé, mais tu me gardes au quotidien. Tu campes autour de moi, tu es là dans mon quotidien. Tu vis avec moi, tu participes à ma vie. Et j'aimerais continuer avec la lecture du psaume 150. Alors le psaume 150, eh bien, c'est le dernier psaume du livre des psaumes, justement, c'est le dernier. Et vous allez voir que c'est un peu particulier, c'est même pas bizarre, c'est normal, c'est que c'est un psaume qui se termine sur la louange. Et ce psaume va répondre à quatre questions, eh bien, sur la louange. Qui doit louer Dieu? Comment louer Dieu? Pourquoi louer Dieu? Et où louer Dieu? Vous allez voir. Alors, je commence la lecture. Louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Je m'arrête un petit peu sur ce verset, si vous voulez bien. Louez l'Éternel, un appel général. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, donc dans sa maison. Louez l'Éternel le dimanche à l'église. Louez l'Éternel, peu importe si on fait culte dans une maison ou peu importe dans ces moments difficiles, eh bien, louez Dieu dans son sanctuaire, dans sa maison. Louez-le dans l'étendue céleste. Or, l'étendue céleste, eh bien, on peut aussi traduire ça par la terre entière, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, peu importe, dans l'étendue céleste. Donc, louez-le dans le monde entier, dans l'univers entier. Louez Dieu dans l'univers entier, où éclate sa puissance. Il faut regarder un peu l'éclat de l'univers, l'éclat des planètes, l'éclat du système solaire, des différents, cet équilibre qui fonctionne entre toutes ces planètes, la terre. Quand on va en voyage dans des lieux un petit peu encore reculés, où l'homme n'a pas encore mis trop sa main pour l'abîmer, force est de constater que c'est magnifique. C'est d'une beauté époustouflante, c'est d'une intelligence que nous n'avons jamais rencontrée. Et bien tout ça, c'est là où éclate la puissance de Dieu, dans la nature. On peut passer. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Voilà pourquoi louer l'Éternel. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur, pour ses hauts faits. Louez-le pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie personnelle, dans la vie de mes frères et sœurs, et aussi pour tout ce que Dieu fait dans le monde entier, au quotidien. Voilà pourquoi il faut le louer. On peut passer. Alors ici, on va voir comment louer l'Éternel. Il y a différentes manières de le faire. Eh bien, louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. On peut continuer. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. On peut continuer. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Toujours sur comment louer. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Donc on peut louer Dieu de différentes manières. Certains, ce sera en chantant. D'autres, ce sera en dansant. D'autres, ce sera en élevant la voix dans la prière. D'autres loueront Dieu en expliquant sa parole, en faisant passer un message, en témoignant pour certains. Mais je pense que l'important, c'est de, peu importe la manière dont on choisit Eh bien, pour louer l'Éternel, c'est de s'assurer que l'on loue bien l'Éternel et pas que l'on loue sa propre personne, hein, pour son, la qualité que Dieu nous a donnée. Et cet appel final ici, pour savoir qui doit louer Dieu, non pas seulement le chrétien, non pas seulement les hommes ou seulement les femmes, non pas seulement ceux qui sont beaux, ceux qui sont intelligents, mais tout. Que tout ce qui respire sur la terre, sous la terre, dans les cieux, loue l'Éternel, louez l'Éternel. Un appel vibrant à vraiment reconnaître l'importance de louer Dieu. Il faut le louer pour tout ce qu'il est. Et il faut chercher chaque jour dans le sacrifice que Jésus a eu pour nous. Comme ces chants nous les ont rappelés, tous ces péchés dont on était responsable, tout ce qui nous condamnait, maintenant c'est terminé grâce à Jésus. Et je pense que ça peut enrichir cette louange quotidienne que Dieu nous demande d'avoir pour lui.